De l'Alaska jusqu'à la Patagonie, il balaye toute l'actualité des Amériques. C'est Michael Ponche qui vous accompagne sur RFI.
Merci Gilles, il est 9h10 à Washington. Un peu plus de deux ans de la présidentielle aux États-Unis, ça croise le fer déjà côté républicain entre deux anciens alliés. Les femmes en première ligne face à la violence des gangs en Haïti où le festival féministe Neges Marron se tient cette semaine à Port-au-Prince. Environnement et business ne font pas bon ménage généralement. Exemple au Guatemala avec un projet minier très décrié. Ce sera notre dossier du jour. Avant de vous retrouver, Benoît Ferrand, pour le journal de la première, on s'intéresse ensemble aux vacances des Guadeloupéens.
Et ils choisissent de préférence cette année la métropole, bien sûr, c'est du classique, mais aussi, et de plus en plus, nous le verrons, les îles voisines de la Caraïbe.
On en parle dans 15 minutes, Benoît. Bienvenue à tous.
Thank you very much.
Fort Myers, 4 ans de plus, scandé par les invités d'un think tank conservateur devant un Donald Trump extatique. C'est en terrain conquis que l'ex-président des États-Unis a fait son retour hier à Washington. Une première depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche il y a un an et demi. Et d'ailleurs, c'est un quasi-discours de pré-candidat qu'il a livré.
Je me suis présenté la première fois et j'ai gagné. Je me suis présenté une deuxième fois et j'ai fait beaucoup mieux. Des millions et des millions de votes en plus. Et on va peut-être devoir le refaire encore une fois. On doit sauver notre pays.
Donald Trump, presque candidat pour 2024, mais les appétits s'aiguisent chez les conservateurs. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
À quelques heures d'intervalle, c'est son ancien vice-président Mike Pence qui s'exprimait lui aussi à Washington.
Et oui, deux discours prononcés dans deux hôtels situés à moins d'un kilomètre qui ont clairement affiché l'une des divisions les plus inconfortables de l'histoire du Parti républicain, c'est l'avis du New York Times. Deux discours en forme de duel, titre le Wall Street Journal, sur la une duquel s'affichent les visages des deux anciens colistiers. Avant-goût d'une bataille potentielle pour 2024. Le ticket Trump-Pence s'est déchiré le 6 janvier, titre le New York Times, lors de l'attaque du Capitole. Mais Mike Pence en a peu parlé hier matin devant un groupe d'étudiants conservateurs. Il s'est surtout attardé sur la question de l'avortement. Si nous sauvons les bébés, a-t-il dit, nous sauvons l'Amérique. Il a brièvement mentionné, c'est vrai, l'émeute du 6 janvier, mais comme le fait remarquer le Washington Times, il ne s'est pas attardé sur ces différends avec Donald Trump. Pourtant, bingo, Michael, c'était le thème de la première question posée par le public. Et voilà sa réponse.
Je ne sais pas si notre mouvement est si divisé. Je ne sais pas si le président et moi avons des points de vue si différents. Nous pouvons avoir des priorités différentes, mais je crois vraiment que les élections portent sur l'avenir. Et il est absolument essentiel, à un moment où tant d'Américains souffrent, où tant de familles sont en difficulté, que nous ne cédions pas à la tentation de regarder en arrière.
Voilà, l'avenir plutôt que les vieilles querelles. Le Financial Times y voit un plaidoyer à peine voilé pour que le parti rompe avec Trump.
Pas de confrontation direct en tout cas. Pour le moment, Mike Pence néanmoins semble se préparer à la bataille.
Oui, en choisissant notamment de soutenir des candidats différents de ceux de Trump en Géorgie puis en Arizona, souligne ce même journal pour qui le rôle de Mike Pence pendant le siège du Capitole le 6 janvier pourrait faire de lui un candidat idéal pour convaincre ceux qui aimaient tout chez Trump, sauf son refus d'accepter la défaite. Sauf que, comme le note Le Devoir au Canada, l'ancien vice-président semble avoir du mal à séduire les Trumpistes. Ça se voit à la applaudimètre, comme le note le New York Times. Côté Pence, c'est plutôt tiède. Mais le très conservateur National Review semble vouloir en faire son poulain. Néanmoins, il encourage les Américains à choisir, je cite, entre les mensonges et le narcissisme qui ont mal représenté l'idéologie et la grande histoire du mouvement conservateur, soit embrasser une politique pleine d'espoir.
Voilà pour la politique. On reste aux États-Unis un instant, à l'autre bout du pays, en Californie. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
Vous suivez-vous la progression de l'Oak Fire, ce méga feu le plus important de la saison qui brûle toute la végétation près du parc Yosemite? Les pompiers, Loïc, annoncent qu'ils les maîtrisaient, ce feu, à 26%.
Oui, les énormes moyens déployés commencent à donner des résultats, apparemment. Le Oak Fire, le feu du chêne en français, a démarré vendredi après-midi. Il s'est propagé extrêmement rapidement lors des premières heures, mais les effectifs des pompiers sont passés de 500 à 3000 aujourd'hui. 300 engins incendie sont disponibles, ainsi que 80 bulldozers et une vingtaine d'hélicoptères. Plus de 1300 tonnes d'eau ont été larguées sur les flammes. C'est le plus gros incendie de l'année, vous le disiez, mais c'est aussi le seul feu majeur en ce moment, ce qui permet de concentrer les ressources au même endroit. L'incendie est maintenu à plus de 25%. Autre raison d'espérer pour les pompiers, la direction du feu qui semble avancer vers une zone montagneuse très peu peuplée. Moins de menaces donc pour les résidents.
Cet Hawkfire qui a déjà brûlé plus de 7000 hectares de forêt. Merci beaucoup Loïc Piala.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
9h15 dans la capitale haïtienne. Marie, vous nous racontez l'histoire d'une balle perdue qui fait la une du Nouvelliste.
Oui, une balle qui s'est fichée, Mickaël, dans l'abdomen d'une femme enceinte de 36 semaines, prise en charge retardée par l'habituel ping-pong médical entre des hôpitaux qui n'ont pas d'électricité, de matériel ou de personnel. Lorsqu'elle arrive enfin au centre de la Croix-Rouge, il est trop tard pour la sauver. Elle s'est vidée de tout son sang, comme le raconte un médecin. Il tente alors de sauver son bébé. Pour un médecin terrorisé par les rafales incessantes qu'il entend depuis la salle d'opération, cela aurait procuré un minimum de satisfaction, écrit le Nouvelliste. Sauf qu'il n'y avait rien à sauver. Le crâne du bébé était déchiqueté par la balle, comme le raconte encore ce même médecin, traumatisé par cette histoire fatigante d'horreur, mais habituelle, écrit le Nouvelliste. Être pris entre deux feux, se faire tuer au détour d'une respiration, blessé par balle jusque dans son lit. Il y a plus d'une façon de mourir en Haïti en 2022. Cette femme enceinte ne se trouvait pas au milieu des feux croisés, elle n'avait entendu aucun tir, elle n'est pas morte d'imprudence, elle est morte chez elle d'une de ces balles perdues de la République. Les douilles chaudes tombent drues devant des yeux indifférents et atterrissent dans la chair des innocents qui sont partout et tout le temps au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et justement, comme en écho à cette effroyable histoire, se tient cette semaine à Port-au-Prince la 5e édition du festival féministe Neges Marron. Cet événement culturel qui propose des lectures, des films, a pour thème « Mon corps au sens propre et défiguré ». Malgré la situation, la directrice artistique Gaëlle Bien-Aimée y voit là une nécessité, un cri, dit-elle, d'abord pour réclamer justice pour les femmes, elle l'a expliqué à Amélie Baron.
Le premier combat, c'est le combat pour la justice, parce que d'un côté, nous faisons notre travail de disponibilité, de prise en charge, d'écoute et de plaidoyer, mais quand ça n'aboutit pas à une justice, c'est compliqué. Et c'est là que ce festival réclame justice, en fait. On ne peut aller nulle part, on ne peut pas construire une société sans justice. Et notre combat à l'intérieur de cette organisation, c'est de justice pour nos droits de femmes et nos droits en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens, citoyennes sur le territoire aussi. Ça, le droit d'avoir accès aux soins, de pouvoir interrompre une grossesse si nous voulons, le droit à cette justice-là si on est agressé, parce qu'en ce moment, les bourreaux, ils sont très, très à l'aise. Donc la justice en général, en fait.
Le festival n'a pas eu lieu ces deux dernières années en raison des troubles sociopolitiques puis du Covid. Aujourd'hui, c'est parce que Port-au-Prince est gangréné par les gangs que les féministes veulent plus que jamais se faire entendre.
Ce festival, c'est un cri, il faut crier là, maintenant. Et donc, venir avec ce festival dans ce contexte où le territoire est fermé complètement avec les conflits armés et où le corps de la femme est au centre de ce conflit. Nos corps sont ravagés. Quand les zones sont bloquées par les gangs, une femme malade, enceinte, ou quel que soit le problème qu'elle gagne, ne peut pas avoir accès à des soins, elles sont violées. En ce moment même, il y a énormément de viols collectifs dans les quartiers populaires, surtout à Cité Soleil. Il y a les kidnappings. Quand les femmes se font kidnapper, elles se font violer. Énormément de femmes se font tuer par leurs conjoints. De plus en plus, les nouvelles arrivent pratiquement chaque jour, tout te réveille avec une nouvelle de ce genre. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut dire non, c'est pas possible. Et le festival dit non, c'est pas possible.
Et Gaëlle Bien-Aimée l'assure, ce contexte sombre est tout sauf un frein à la création artistique.
Vivre dans le pays est difficile. Vivre est difficile. Créer n'est pas difficile. Je pense qu'il y a quelque chose qui bouge en ce moment. En tout cas, moi, je vois le festival, je vois les artistes au travail qui ne se plaignent pas. Les artistes ont toujours fait ce qu'ils ont à faire. C'est juste vivre qui est compliqué. Et le festival est un espace aussi où on articule cette pensée féministe autour du bien-être, de la liberté et de la justice. Et les artistes comprennent parfaitement. Les formes esthétiques sont extrêmement importantes parce que nous, on se dit, on est dans le chaos, mais évoquons la beauté. C'est ça l'espoir que nous gagnons. C'est les artistes, ils bossent, ils attendent le festival pour cracher ce qu'ils ont envie de dire. Ça témoigne de cette nécessité de s'exprimer, d'exister en tant qu'individu, en tant qu'artiste, dans la conjoncture quand même, et ce besoin de vivre.
Quant à ceux qui disent que le pays a d'autres urgences que les luttes féministes, Gaëlle Bien-Aimée n'en a rien à faire.
On ne peut pas et se battre contre l'impunité et se battre contre la mauvaise foi des gens. Tu vois, on ne peut pas mener deux combats. On est en train de dire non à l'impunité. C'est pas possible que des gens qu'on soupçonne d'agression, de viol, qui était devant la justice, pavane librement. C'est juste pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui a un dossier au tribunal soit en poste. C'est pas possible. Nous, on est en train de se battre pour la vie, pour notre vie à nous. Et le combat féministe, c'est un combat pour la vie. On ne peut pas se battre, crier, dire non à l'impunité, demander justice et aussi occuper moun kap di que vous parlez mes féministes. We don't care. We do not care.
Gaëlle, bien-aimée du Festival Négresse Marron qui se tient à Port-au-Prince jusqu'à vendredi.
RFM, Las Voces del Mundo.
Ça a de quoi faire rêver tous les musées du monde. Le Mexique, Marie, récupère de la part de particuliers, un sacré paquet de pièces archéologiques.
Mais oui, 2522 pièces préhispaniques rendues par la même famille de Barcelone en Espagne, hein, des figures taillées dans la pierre, des pointes de flèches, des vases qui seront exposés au Templo Mayor à Mexico. Et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s'en est réjoui d'ailleurs lors de la traditionnelle conférence de presse qu'il a donnée hier matin. Il explique que ce n'est que le début de la récupération du patrimoine dispersé à l'étranger.
Des milliers de pièces archéologiques qui avaient été volées et vendues lors de ventes aux enchères sont en train d'être récupérées. Nous consolidons ainsi notre patrimoine historique et culturel.
Le tout sous la tutelle de l'Institut national de l'anthropologie et d'histoire. Et c'est là que le bât blesse, Michael, car selon Publimétro, l'Institut est en ruine, comme le dénoncent des employés de l'Institut. Une chercheuse soutient qu'il ne dispose pas de matériel ou d'équipement adéquat pour la conservation de ce patrimoine.
C'est le revers de la médaille. Merci beaucoup, Marie-Normand. Bref, un petit mot du Panama. Après 3 semaines de blocage pour dénoncer la cherté de la vie et la corruption, les routes ont été débloquées hier par les manifestants, mais les négociations se poursuivent entre les syndicats et le gouvernement. On remonte un peu plus au nord et on s'arrête maintenant au Guatemala, où un projet de mine d'or à ciel ouvert mobilise depuis 2 mois les maires de plusieurs villes du pays, mais aussi du Salvador et du Honduras. Car cette mine pourrait bien contaminer, si elle voit le jour, au cyanure et à l'arsenic, le LEMPA, plus grand fleuve de la région, et ainsi empoisonné par extension plus de 4 millions de personnes potentiellement. La compagnie canadienne qui porte le projet défend l'emploi qui en découlerait, bien sûr, le respect de l'environnement. C'est notre dossier du jour, il est signé Martin Chabal.
C'est au milieu de la jungle guatémaltèque, à une 20aine de kilomètres du volcan Suchitán, aux abords du plus grand fleuve d'Amérique centrale, que la mine d'or à ciel ouvert de Cerro Blanco va être construite. Ce projet inquiète certains maires locaux. Dans une exploitation d'or à ciel ouvert, on utilise de l'eau avec du cyanure pour récolter le précieux métal. Ce liquide pollué pourrait se déverser dans le fleuve LEMPA qui serpente entre le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Une communauté de villages à la frontière de ces trois pays se dresse contre ce projet sur le sol guatémaltèque. Hector Alfonso Aguirre est le président de l'Organisation des maires.
Nous pensons que le Guatemala viole un traité trinational signé avec le Honduras et le Salvador. Ce sont les accords de la région du Trifinio, à cheval sur ces trois pays. L'article 3 de ce traité stipule que tout nouveau projet doit être validé par les trois pays signataires et doit permettre de développer les populations locales ainsi que de gérer de manière durable les ressources naturelles. Le Guatemala n'a pas consulté les autres signataires et c'est pour cela qu'on pense qu'il viole le traité trinational.
Au Salvador, le Rio LEMPA contribue à lui seul à plus de 40% de l'approvisionnement d'eau potable de la capitale. Il alimente aussi des exploitations agricoles. Une contamination au cyanure serait catastrophique. Avec la levée de boucliers des maires de la région transfrontalière, le Salvador a commandé une enquête.
Le vice-président salvadorien, qui est le responsable politique de l'accord trinational, a appelé le ministre de l'Environnement et la ministre des Relations extérieures. Il leur a demandé de mener une enquête sur la mine depuis la prise de position de l'intercommunalité.
De son côté, la compagnie canadienne qui a hérité du projet en 2017 défend un système d'extraction de l'or respectueux de l'environnement. Selon son plan d'action, il n'y a aucun risque que le cyanure soit rejeté dans la nature. Santiago Correa est responsable environnement pour l'entreprise minière. Il nous raconte comment il compte recycler l'eau.
Nous allons traiter l'eau dans laquelle on a injecté rajouter du cyanure grâce à un système de traitement. Avec ça, on va enlever la dangerosité du cyanure. Le cyanure ne sort pas de la mine. Maintenant, si pour une quelconque raison, un accident, ou si le cyanure n'est pas totalement éliminé des déchets, il y a un deuxième circuit de récupération d'eau en dessous du premier. L'eau arrive dans une grande piscine et on va traiter encore une fois cette eau.
Ce double circuit fermé assure le traitement de l'eau et élimine tout le cyanure utilisé pour extraire le précieux métal. Malgré tout, la communauté de village s'inquiète tout de même des risques d'accidents et de contamination. Lorena Ortega est géologue, elle s'est intéressée à ce projet de mine.
Sur le papier, il semble que la compagnie, je dis bien il semble, a pris en compte les mesures nécessaires. S'ils mettent en place le processus de traitement à la lettre, il peut n'y avoir aucune trace de cyanure dans l'environnement. Évidemment, comme tous les processus du genre, il y a des risques. Pour que tout fonctionne, rien ne doit casser, il faut vérifier sans cesse tous les circuits, il faut vraiment avoir du personnel de qualité prêt pour ce genre de tâches. Et ça, c'est à l'entreprise de les former.
L'entreprise affirme s'appuyer sur une main-d'œuvre locale, mais la communauté de communes trinationales n'est tout de même pas rassurée. Selon eux, la mine aurait déjà contaminé les réserves d'eau souterraine de la région. Et depuis la contestation, l'action en bourse de l'entreprise canadienne a également chuté de plus de 50%. Les difficultés financières à venir pourraient pousser la compagnie à sacrifier ses engagements en faveur de l'environnement sur l'autel de la rentabilité.
Voilà, menace sur le LEMPA, dossier signé Martin Chabal. Le journal de la première, c'est avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Pour les vacances, les Guadeloupéens choisissent la métropole, mais aussi de plus en plus, vous nous dites, leurs voisins des Caraïbes.
Oui, près d'un mois après le début des grandes vacances, la tendance consistant à aller découvrir les pays de la zone se confirme, selon en tout cas les agences de voyage locales. Nicolas Pietrus.
Les Antillo-Guyanais ont repris goût au voyage après 2 années de tourisme à la maison. Et c'est la capitale française qui est leur première destination.
Comme chaque année, Paris reste une des destinations les plus importantes.
Valérie Amboise, présidente du syndicat des agences de voyage des Antilles et de la Guyane. Outre Paris et la province française, où vont les Guadeloupéens? La réponse de Valérie Amboise.
Les destinations les plus demandées restent Saint-Martin et la République dominicaine, et avec depuis quelques semaines un regain des Guadeloupéens vers certaines îles de la Caraïbe comme sont Sainte-Lucie, la Dominique ou Antigues.
Question, pourquoi ces destinations reviennent-elles à la mode?
Parce que les conditions d'entrée se sont assouplies pour les non-vaccinés depuis quelques semaines vers ces destinations.
Résultat, sur le plan comptable, les agences de voyage sortent la tête de l'eau.
La saison est une saison réussie. Elle n'est évidemment pas au niveau de l'année 2019, mais on s'en rapproche. La tendance reste relativement bonne.
Les prévisionnistes du voyage prévoient un mois d'août tout aussi intéressant. Reste à savoir si les croisiéristes vont également reprendre goût au voyage.
Et puisqu'on parle de tourisme, sachez qu'il y a au moins un endroit à éviter en ce moment du côté des Antilles et de la Guyane, c'est le secteur de Macouria en Guyane, pas très loin de Cayenne, avec le retour nocturne des papillons cendres et du gros embêtement qui les accompagne, autrement dit la papillonite, Lindy Nédan.
Pendant la nuit, à proximité des mangroves ou de sources de lumière, les papillons cendres, à l'origine de la papillonite, libèrent en vol des milliers de fléchettes microscopiques urticantes afin de protéger leurs œufs des prédateurs. Ces fléchettes, lorsqu'elles sont en contact avec le corps humain, peuvent entraîner des éruptions cutanées, des démangeaisons locales importantes et parfois des œdèmes. En cas de contact avec ces fléchettes urticantes, prenez une douche très chaude pour diluer le venin, évitez de vous gratter et appliquez un produit calmant vendu en pharmacie.
Voilà, et faut-il le préciser, une fois que les papillons cendres sont repartis, on peut de nouveau aller à Macouria. Bon après-midi, Michael, à demain.
Et bien voilà, tous à Macouria, une fois que les papillons cendres seront repartis. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient comme chaque jour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci beaucoup à Jérémy Boucher qui était aujourd'hui à la réalisation. Vous pouvez commenter l'actualité, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, Facebook, mais aussi Twitter avec @RFIAmérique. Et vous pouvez aussi nous réécouter via ces canaux et puis toutes les plateformes de podcast aussi, et bien sûr sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous et à demain.